Antoine Robitaille.
Antoine Robitaille.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
Là-haut sur la colline.
Il est rendu New Hampshire où avaient lieu les primaires, des primaires importantes en politique américaine. Évidemment, on en a tous entendu parler. C'est Guillaume Lavoie. Bonjour, Guillaume.
Bonjour, Antoine.
Content de te retrouver. Hein? On a passé tout l'automne ensemble. Je m'ennuie un petit peu. Je suis très content que tu sois là à Là-haut sur la colline aujourd'hui. Puis surtout que toi, t'es allé, justement, comme je le disais, au New Hampshire. D'abord, je veux savoir, es-tu allé en train? Parce que je connais ta passion pour les trains.
Oui, alors je serais normalement allé en train, mais pour le New Hampshire, là, c'est pas l'idéal, là, parce que la seule ligne qui rejoint Montréal au reste des États-Unis, c'est de descendre pour aller presque jusqu'à New York, pour après ça trouver une ligne là, un peu perdue qui remonte au nord pour le New Hampshire. Alors le mieux, c'est la voiture, mais tu sais, le New Hampshire, c'est pas très très loin hein, de Montréal.
Non.
C'est 4 heures Concord, qui est la capitale.
Ouais.
Une bonne demi-heure de plus, c'est Manchester, qui est la plus grande ville. Puis là, t'es presque rendu dans l'écosystème bostonnais. D'ailleurs, l'aéroport Manchester fait partie du Grand Boston, là. Mais c'est un coin extraordinaire. Moi, je vais là depuis 2007 pour des tournées autour des primaires. Alors, il n'y a pas un pouce carré de l'État que je connais pas ou dans lequel je suis pas allé. Que ce soit là, les coins les plus perdus, les centres d'achat, les centres communautaires.
As-tu adopté leur devise « Live free or die », Guillaume?
Qui est une devise assez fantastique. Pour la petite histoire, là, c'est
oui.
La devise des États américains, Antoine, qui est la plus célèbre de toutes
oui.
les devises. Hein, nommez-en une autre, hein, la preuve.
Oui.
C'était pas ça avant. Au Québec, dans les années 70, on est passé de la belle province à
oui.
« Je me souviens ». Au New Hampshire, c'était scénic, hein, comme une belle scène à voir.
Oui.
Et c'est en 71
un beau paysage,
que c'est
devenu, oui.
en 71 que c'est devenu Live Free or Die, mais c'est la devise officielle de l'État depuis 1945. Et
ah,
là,
oui.
quelle est l'origine d'espèce
oui.
de choix manichéen entre
oui.
la liberté et la mort? Ben, il y en a plusieurs. Dans la Révolution française, Antoine, il y avait ce slogan vivre libre ou mourir. Là, c'est presque textuel. Il y avait dans le siège de Barcelone, puis là c'est mes racines catalanes qui parlent, il y avait « Vivre libre ou nous mourirons ». Puis sinon, aux États-Unis, pendant la Révolution américaine, ben c'est Patrick Henry qui disait « Give me liberty or give me death ». Puis là, personne n'est vraiment sûr de ça vient d'où. C'est probablement un général, un peu l'enfant chéri de l'État du New Hampshire, un général très important pendant la guerre de la Révolution, la guerre d'indépendance, qui, dans un toast, avait écrit « Live free or die », qui s'était inspiré des choses dont on vient de parler. Probablement le plus proche, c'était la Révolution française, parce que là, on est, c'est un anniversaire, on est en 1803, je pense.
Mm-hmm.
Alors, et ils en ont fait vraiment la devise. Alors vraiment, l'idée de la liberté au New Hampshire, c'est très fort. D'ailleurs,
oui.
c'est quoi la TVQ au New Hampshire? C'est zéro.
Ah,
c'est
oui,
quoi
hein?
l'impôt sur le revenu au New Hampshire? C'est zéro. Alors, beaucoup
ah,
de
oui.
gens qui sont ce qu'on appelle des fixed income, hein, des gens qui, par exemple, des retraités, déménagent au New Hampshire parce que si tu peux pas gagner plus, ben, tu peux couper dans tes dépenses puis pas payer d'impôts ou de taxes. Bien sûr,
puis tu peux faire de la moto sans casque.
Voilà. Alors, hein? ça, c'est, de tout, là, moi, je fais plus sur l'impôt ou les taxes, mais oui, il y a ça aussi.
Je trouvais que c'était... Oui, parce que c'est pas le cas dans tous les États américains. Mais le New Hampshire, donc, se caractérise par son amour de la liberté, mais aussi par le fait que c'est une sorte de plaque tournante politique. Là. C'est pour ça que toi, tu y vas, puis ça te permet de faire des rencontres toujours intéressantes.
Oui, parce que, d'abord, c'est la première primaire depuis les années 20, les années 30. Et le fait que ce soit un petit État, donc les dépenses pour y faire campagne sont un peu moindres, ce qui donne un peu plus la chance à tout le monde. Donc même un candidat qui n'a pas avec lui tout le parti, l'establishment, les grands médias et autres, c'était plus vrai avant, ben là, a une chance au New Hampshire. Et les gens donnent vraiment une chance à tout le monde.
Mm-hmm.
Moi, je connais un paquet de gens au New Hampshire qui font comme un devoir d'aller entendre tous les candidats, des plus importants, au plus inconnu, puis de se faire une vraie opinion. Puis là, les candidats, ils n'ont pas juste le luxe de faire des grands discours dans des trucs hyper aseptisés, là. C'est, exemple, dans telle rue, dans tel quartier, ça se passe chez Antoine. Alors, tu y vas, puis Antoine invite ses voisins, puis tu leur parles. C'est vraiment, là, personne à personne. Ça se perd un peu plus maintenant qu'avec les médias sociaux, les médias de masse, l'argent en politique, mais ça reste, si c'est encore vrai un peu, c'est vrai au New Hampshire. Et moi, ça m'est déjà arrivé de me pointer à des rassemblements de candidats dont la campagne va pas très bien, et d'être la seule personne qui est là avec 2-3 citoyens, puis le staff du gouverneur ou du sénateur ou de l'ambassadeur. Alors, ça permet de leur parler, puis à un moment donné, d'avoir une véritable relation. Alors, c'est un endroit fascinant, magnifique aussi. Si on aime la politique, puis d'être capable de voir par-dessus les filtres des médias, c'est l'endroit idéal. Je te partage une anecdote, Antoine, c'est Ron DeSantis. Hein, celui
oui,
à qui tout était
tu l'as
promis.
Vu, tu l'as aperçu là-bas.
Oui, puis il a aperçu
un de ses discours.
De pas très loin, il faisait un événement dans une pièce, dans une espèce de salle d'hôtel minuscule, là, peu près grande comme mon salon, un peu plus. On était, pour être généreux, 50. Puis toutes les caméras étaient là, mais il y avait à peu près 50 personnes. C'est pas beaucoup, ça.
Ouais.
Et là, il est au milieu, puis il parle. Puis j'avais un collègue qui était avec moi. À la fin, ça a duré une heure, je regarde mon collègue, puis j'écoute, c'est pas personnel, là, je suis pas insulté, mais il m'a pas regardé une fois. On est 50, là. Puis lui,
oui,
je
sais pas qui a dit cette semaine, j'ai entendu qu'il y avait comme le charisme d'une thermopompe.
T'as une poignée de porte, oui. Et là, mon ami m'a dit la même chose. Il regardait dans le vide, comme s'il voulait pas entrer en connexion avec personne. Puis là, tu sais, on peut faire mieux, là. Antoine, moi, j'ai rencontré Bill Clinton. Alors, il m'a serré la main, il m'a posé la question, bonjour, j'ai donné mon nom, puis que je venais de Chicoutimi. Ça a dû durer peut-être 2 secondes. Mais dans ces 2 secondes-là, je suis sûr que j'avais l'impression que j'étais la personne la plus intéressante au monde dans sa vie. Alors, il y a des gens qui ont cette facilité à établir une connexion, et il y a des gens qui l'ont pas du tout. Ron DeSantis, plus il rencontrait des gens, plus les gens disaient, ouais, mais... Il fait presque robotique là, dans sa capacité d'entrer en relation.
Alors, il n'est plus dans la course. Et là, dans la course républicaine, évidemment, le New Hampshire, ça a marqué une victoire incroyable de Donald Trump. Es-tu allé à un des nombreux événements Trump là-bas?
Oui, et c'était la première fois, moi, que j'allais... J'avais vu ses discours à la télévision ou sur Internet là, des centaines de fois. Là, je me dis, je vais aller à un rassemblement de Donald Trump, puis c'est impressionnant. Là. Moi, c'était un samedi soir. Il venait de faire un très gros rassemblement la veille. Et il en faisait un très gros le lendemain. C'est comme si, Madonna fait 3 spectacles en 3 soirs. Là. Tu dis, il n'y a pas assez de monde pour animer tout ça. Là. On est à Manchester un samedi soir. Soir de série éliminatoire au football. Là, je me dis, il n'y aura pas un chat. C'est le plus gros aréna de l'État. Et il y avait, quand moi je suis arrivé pour faire
c'est
la
dans quelle ville déjà?
Manchester, donc.
Ah, c'est dans Manchester, OK.
C'est pas la capitale, c'est la plus grosse ville.
Oui, oui.
Et là, j'arrive pour faire la file, je vois l'aréna, puis là, je dois marcher pour être jusqu'au bout de la file. Fais un premier pâté de maison, passe une lumière, un autre pâté de maison, encore. On était à peu près à 1 kilomètre de l'entrée, là. Et derrière moi, ça continuait, là. Et là, il fait moins 15 au thermomètre. Puis là, on est en Nouvelle-Angleterre, il fait l'humidité de 3000%. Il y a un vent. Il doit faire à peu près moins 25 ressentis. Je fais la file pendant 1 heure. Là. Moi, j'étais habillé comme un ours. Il y a des gens qui étaient habillés comme des ados. Et quand ça a été le moment que moi, j'ai dû entrer, 1 heure plus tard, là, à me geler dehors, la file était encore plus longue. Et là, il faut passer la sécurité, un peu comme l'aéroport.
Ben oui.
Et j'avais de la misère à parler aux agents de sécurité.
Est-ce que tu dois payer pour y aller? As-tu dû payer?
Non, c'était gratuit. Puis pas que parce que j'y allais comme représentant des médias. Là, c'était gratuit pour tout le monde. C'est un show. Véritablement, pensez à des gens qui font la file pour aller voir un show rock. Vous avez à peu près l'idée de ce que c'est.
Aïe.
Et là, là-dedans, c'est véritablement là de l'ordre d'un rassemblement de la colère.
Ah oui.
Trump dit n'importe quoi. Alors, par exemple, un il disait « En Chine, ils ont pas de problème de drogue parce qu'ils ont la peine de mort. Quand moi, je vais être au pouvoir, ce sera pas pareil. »
Ah, il a dit ça? Mon Dieu.
Parce qu'il y a la peine de mort aux États-Unis aussi. Là.
Ben oui.
On n'est pas dans l'ordre des faits.
Pas partout.
On est dans l'ordre de l'émotion.
Tout le temps, ouais.
Et l'émotion, en fait, le véritable caractère unifiant d'un rassemblement de Trump, c'est la faute à un tel. puis à un autre. Puis les lignes qui marchent le mieux, puis elles marchent, là. On peut critiquer la manière de le faire, mais Trump touche à des cordes de sensibilité extrêmes. Voici, là, dans l'ordre des applaudissements les plus forts. Tout ce qui concerne, là, c'est la faute des woke. Il y a une colère par rapport à ça. Les ayatollahs de l'environnement puis de la voiture électrique. Les ayatollahs, les globalistes, ceux qui veulent le libre-échange, ceux qui veulent que les étrangers aient le droit d'exporter des choses chez nous. Et peut-être la chose qui est la plus applaudie, c'est la frontière, c'est l'immigration. Puis là-dessus, Trump peut dire là toutes les caractères farfelus qu'il veut, mais il reste que à chaque jour aux États-Unis, il y a 13 000 personnes qui traversent illégalement la frontière. C'est intenable. Et ça, si Joe Biden ne se met pas à parler de sécuriser la frontière, il est foutu. À la fin, celui qui gagne une élection, Antoine, c'est pas lui qui a la meilleure réponse. C'est la personne qui répond à la question qui intéresse les gens.
C'est ça.
Puis l'immigration, c'est en haut de la liste.
Absolument. Ben, on voit que le thème est en train de s'installer ici aussi, hein, avec François Legault, sa lettre, même Justin Trudeau qui a dit qu'il fallait contrôler les étudiants étrangers, le nombre de travailleurs temporaires. Donc, ça s'installe ici aussi, ce thème-là, mais évidemment pas dans des termes trumpistes. En tout cas, pas encore, mais...
Le problème est là, mais si personne y répond, si le centre, ou appelons ça la politique du centre,
ouais,
les partis traditionnels répondent pas à des enjeux réels, ben faut pas se surprendre que des gens à la marge finissent par monter. C'est ceux qui répondent aux questions qui intéressent les gens qui vont avoir des votes. Fait que si Trump fait plein de votes, c'est peut-être aussi parce que les autres ont pas réussi à donner un écho aux préoccupations qui sont sincères. Le libre-échange, moi je suis libre-échangiste, mais c'est vrai que ça fait fermer des usines dans certains endroits. Puis ceux qui se retrouvaient mal pris, mais on leur disait « t'as juste pas compris ». Et là-dessus, la critique de Trump, elle est très forte, là. Nikki Haley, tous les gens qui sont avec elle, c'est le vieux Parti républicain. Là, je parle comme Trump. C'est les gens qui nous ont trahis. C'est les mondialistes.
Ah,
c'est
oui,
les élites. Et là-dessus, c'est très fort. Ce n'est plus le Parti républicain. Ronald Reagan se ferait jamais élire aujourd'hui. Dans ce parti-là.
C'est lui, justement, ce qu'il disait sur les immigrants, c'est devenu totalement interdit dans le parti de Trump, entre autres.
C'est le parti de Trump. Et au New Hampshire, c'est un peu particulier. Au Québec, là, si Élection Québec venait vous voir pour vous mettre sur la liste électorale, puis vous demande, êtes-vous péquiste, libéral, caquiste ou autre, vous seriez furieux, avec raison.
C'est bizarre. Mais
aux États-Unis, quand on se met sur la liste électorale, il faut déclarer notre allégeance parce qu'on veut pouvoir participer aux primaires des uns et des autres. Moi, je pense que c'est fourraide, mais c'est comme ça. Au New Hampshire...
C'est vraiment une vieille démocratie pour ça. C'est comme Joe Biden qui a gagné sa primaire, mais parce que les gens ont écrit son nom à la main sur les bulletins de vote.
Oui, puis là-dessus, le fait que l'Iowa et le New Hampshire soient en premier, ça colore énormément la politique au national.
Ah oui.
Si vous voulez augmenter les comptes de taxes, là, puis que le premier État où vous allez vous faire tester, puis qu'il y a tous les projecteurs, c'est le New Hampshire où ils n'en payent pas, ben vous êtes mort. Puis là, ben le premier test électoral que vous avez, c'est un échec. L'autre politique ridicule, sinon débile, c'est l'éthanol dans l'essence. L'éthanol, c'est fait avec du maïs. L'endroit où on fait du maïs, c'est en Iowa. Si demain matin, le premier État était la Caroline du Sud, ce que M. Biden veut essayer de faire, ou le Nouveau-Mexique, ou la Californie, les thèmes seraient pas les mêmes. Ramenons ça chez nous, Antoine.
Ah oui.
Si on faisait des courses à la chefferie, région par région, puis la première région, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Oui, là, vous avez l'idée, patelin, ça.
Vous avez l'idée saugrenue d'aller dire que l'aluminium, c'est mauvais.
Oui.
Ben, je donne pas cher de votre peau, là. Alors, non, il va y avoir une politique industrielle pro-aluminium, ça va colorer les choses.
Ah,
puis
oui,
si c'était l'Abitibi, ben, il faudrait parler des mines.
Du bois, des mines.
Alors, celui qui arrive en premier, ça surcolore, ça surpondère les thèmes. Et là, là-dessus, ben, c'est ça que Biden dit. Il dit, peut-être qu'on devrait prendre un État un peu plus diversifié dans sa population. Par exemple, la Caroline du Sud, population noire importante, population blanche, mais du Sud, plus col bleu, avec des bases militaires, un poids militaire important. C'est un bon test représentatif ou plus représentatif du reste du pays. Mais comme Biden n'était pas sur la liste puis pouvait se faire humilier, tout le réseau Biden se mobilisait. parce que sur le bulletin de vote, il y a une ligne en bas. Vous pouvez écrire le nom de quelqu'un, puis finalement, Biden a gagné très, très fortement. Alors, il n'y a pas juste évité l'embarras. Biden est pas mal plus sécurisé dans son parti que je le soupçonnais au départ.
Ben merci infiniment pour ce carnet américain. Puis c'est toujours intéressant de t'entendre parler de tes voyages là-bas. C'est ça fait combien de fois que tu vas aux États-Unis? L'as-tu déjà calculé?
Non, j'ai pas calculé, mais il y a 50 États, là. Je sais pas, je suis allé combien de fois, puis là, tous les voyages sont pas égaux entre eux, là.
Ouais.
Aller au New Hampshire, puis se geler, a pu sentir les doigts, puis le nez, ouais. Ça laisse des traces plus importantes que de juste passer là, à l'aéroport en partage. Mais le New Hampshire, le Colorado, la Géorgie, l'Alabama ont pour moi été les plus marquants, puis l'Oregon. Ah ouais. Dans le fond, quelque part, les États-Unis, c'est pas un pays, c'est un continent.
C'est ça.
Et il y a personne qui peut dire qu'il comprend les États-Unis, pas plus qu'il comprend le Canada, s'il n'y a pas vraiment passé du temps dans chaque pied carré de la pièce. Alors, ça fait quelque chose d'assez vaste à découvrir, donc encore plus intéressant.
Merci encore une fois, Guillaume, puis au plaisir de te retrouver à La Haut sur la Colline.
Au plaisir.
Salut.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Alors, j'ai toujours rêvé de faire ça, réunir toute l'équipe politique du journal. Il manque malheureusement le chef Rémi Nadeau, mais il viendra, c'est sûr, parce qu'il y a de la place sur la nouvelle plateforme qu'on utilise. On va parler des caucus avec l'équipe politique. C'est mes amis correspondants et correspondantes parlementaires à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Il y a Geneviève Lajoie, bonjour.
Bonjour Antoine.
Marc-André Gagnon, bonjour. Gabriel Côté, bonjour. Patrick Bellerose, bonjour. Et Nicolas Lachance. Alors, vous avez tous fait des caucus sure. Cette semaine. On va commencer par Nicolas Lachance qui était, c'est la semaine passée dans ton cas, c'est pour ça qu'on commence par toi. Le premier parti qui a dégainé dans les caucus, c'est le Parti québécois. Tu étais là, comment ça s'est passé?
Le Parti québécois qui a profité du vide. T'es le seul parti la semaine dernière à faire son caucus. Donc, l'attention médiatique était totale, si bien qu'on a même pensé que la CAQ paniquait à un certain moment parce qu'il y a eu des lettres qui ont été envoyées sur l'immigration par la CAQ à Ottawa. Et on aurait dit que c'était en réponse à ce que le Parti québécois est en train de faire au Lac-Saint-Jean à Alma, où ils se sont réunis. Clairement, le Parti québécois a le vent dans les voiles à Alma. J'ai couvert la campagne électorale là-bas du Parti québécois et jamais durant toute la dernière campagne électorale, il y avait eu autant de monde dans des rassemblements militants. Donc, le premier soir, il y a eu un rassemblement militant à Alma. La salle était comble, c'était le délire. Pendant la campagne électorale, on pouvait entendre voler les mouches.
J'étais avec toi, vraiment, je me souviens. On est allé dans un restaurant à un moment donné, il y avait comme 8 personnes, là, ça faisait pitié.
Environ, c'est ça. Mais là, c'était plein à craquer. On sent que le PQ veut reconquérir le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le cœur des Saguenayens et des gens du Lac-Saint-Jean, des régions, parce qu'ils ont déjà annoncé où sera leur prochain caucus, ça sera en Abitibi-Témiscamingue. Mais bref, ils ont lancé le bal, profité du vide et profité du... C'est eux qui ont lancé le sujet qui est sur toutes les lèvres depuis 2 semaines, le sujet des seuils d'immigration, l'immigration temporaire. Donc, le Parti québécois qui s'est positionné en voulant mettre de la pression sur le parti de François Legault, sur la CAQ, en lui disant qu'il devait agir, se servir de ses leviers. Lui qui avait même lancé l'idée en campagne électorale qu'il était prêt à aller jusqu'à un référendum sur la question des pouvoirs en immigration. Donc, il a lancé un défi au premier ministre en disant « Ben, vous voyez, vous êtes pas capable d'aller chercher ce que vous voulez. Le gouvernement de Justin Trudeau au fédéral abuse. » Fait rentrer à la tonne alors qu'on n'est pas prêt à les accueillir, qu'on n'a pas assez de logements. Donc, a martelé l'argument de l'habitation qui est aussi au cœur des sujets d'actualité. Donc, clairement, le Parti québécois a réussi à se positionner fortement et à lancer un peu les idées qui allaient être sur le terrain pour commencer la prochaine session parlementaire qui commence la semaine prochaine. On a aussi senti... On est revenu sur l'indépendance, la souveraineté. Paul Saint-Pierre Plamondon a assuré qu'il allait continuer malgré les bons sondages, même s'il y a le vent dans les voiles, qu'il allait marteler son sujet de prédilection, hein, l'indépendance du Québec, qu'il allait pas tirer la prise parce que justement, il gagne des votes, il gagne des appuis. Paul Saint-Pierre Plamondon a admis qu'il serait moins présent à l'Assemblée nationale lors de la prochaine session parlementaire. Il sera sur le terrain à la recherche de vedettes. Donc, il cherche déjà son équipe qui pourrait être ministrable. Ce qui est quand même intéressant, 2 ans d'avance, il veut vraiment profiter de l'élan actuel, du vent qui souffle dans ses voiles.
Marc-André, Geneviève, vous étiez au caucus de la Coalition Avenir Québec. Geneviève, donc l'immigration aussi, ça a fait beaucoup jaser, là, et malgré tout, le premier ministre est resté discipliné parce que c'est sa nouvelle marotte, ça, être discipliné sur la question de l'immigration.
Oui, c'était la première apparition, faut le dire, du premier ministre depuis avant les fêtes, hein. Donc, ouais. Ça fait très longtemps. Puis, on l'a senti quand même, il s'est très peu adressé à nous, là, juste à la fin, mais on l'a senti très nerveux, même dans le point de presse qui clôt ouais. comme le caucus, là. On l'a senti nerveux. Il avait peur de faire une erreur, hein. Puis, de toute façon, les officines caquistes, on avait mis dès le début de la semaine là, le mot d'ordre là, avait été donné dans plusieurs médias là, on avait publié ce que les apparatchiks caquistes le souhaitaient, c'est-à-dire le mot discipline pour la semaine, et aussi que de rassurer un petit peu aussi les ministres à l'effet qu'il n'y aurait pas de remaniement ministériel là, d'ici juin, mais qui sont tout de même sous la loupe là, hein, le premier ministre les a à l'œil. Et puis, on s'attend à ce qu'il performe. Ça mettait la table pour le caucus.
Moi, je trouve ça bizarre un peu, un parti qui nous dit, au fond, qui fait de la stratégie ouverte. Hein? Il nous dit qu'il faut être discipliné, on va revenir au jeu de base. Ça, est-ce que c'est une bonne idée, Marc-André, tu sais, de faire de la stratégie ouverte, parce qu'après ça, nous, on va dire, ben là, les distractions, c'est quoi? La discipline, est-ce que vous êtes vraiment discipliné? Alors, on n'est pas dans le fond, on est dans la forme totalement.
Ben, c'était la grande question. Quelles sont ces distractions? Bien qu'on s'en doute, et on a posé la question lors du seul point de presse de ce caucus à François Legault, à savoir quelles sont donc ces distractions. Et ce que M. Legault nous a répondu, c'est que la meilleure manière de se tenir loin des distractions, c'est de pas les nommer, donc je n'irai pas les nommer, c'est ce qu'il a dit. Il a ajouté que tout a été dit, et ça, c'est une phrase qu'il disait aussi avant les fêtes, tout a été dit, lorsqu'on questionnait sur quoi? Sur le troisième lien, entre autres. Tout a été dit. Alors, on comprend qu'en 2023, le troisième lien s'est embêté la CAQ, et pourtant, ben, ils ont créé leur propre malheur dans les faits, puisqu'ils ont d'abord reculé sur ce qui était depuis des années l'engagement fort de la CAQ, donc de creuser un tunnel entre Québec et Lévis routier. Donc, en avril, on nous annonçait que c'était un troisième lien finalement sans voiture. Après la défaite cinglante de la CAQ dans Jean Talon, François Legault a ramené la possibilité d'un troisième lien routier. On comprend que maintenant, M. Legault ne veut plus en parler et qu'il ne veut plus parler non plus des enjeux de la capitale nationale. Et beaucoup des promesses de la CAQ, qu'on pense au troisième lien, au tramway, au marché Champlain, tout ça, ça attend maintenant la fameuse analyse qui a été commandée à CDBQ Infra, dont on aura les résultats
seulement. C'est tout un rendez-vous, ça, en juin? En juin, là, ça va être un rendez-vous. Je veux dire, tous les sujets vont revenir sur... Toutes les distractions vont revenir sur la table.
Ouais, là, il y a une nouvelle session parlementaire qui commence et à la fin juin, lorsque cette session parlementaire va terminer, le gouvernement Legault aura de grandes décisions à prendre, des décisions qu'on a l'impression qu'il est en train de pelleter en avant. Et là-dessus aussi, on a posé la question à M. Legault à savoir s'il pellete en avant des grandes décisions qu'il doit prendre sur plusieurs de ses promesses phares, en fait, et il nous a demandé à être patient. Et les députés, pour leur part, pendant le caucus, ben, ont respecté le mot d'ordre. J'ai eu personnellement l'impression que discipline pour les députés de la CAQ, ça voulait dire éviter de répondre aux questions des journalistes.
Oui, c'est ça. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose? Après ça, on va aller à Patrick.
C'est particulier, je ne sais pas si vous avez la même impression, mais quand on voit l'échéancier, au début c'était supposé être mai, ça laissait encore du temps où les partis allaient siéger, mais là c'est fin juin, on va tomber à l'été, donc le parti, est-ce que compte essayer d'étouffer tout ça durant l'été. On ramènera pas ça avant l'automne prochain. C'est un peu l'impression que j'ai en repoussant ça à la fin juin. C'est comme si on espérait que les vacances d'été allaient faire un peu office d'été noir, là, tu sais.
Oui, Geneviève, tu veux dire quoi?
Oui, juste dire que de toute façon, je pense pas que la CAQ, et on l'a senti dans les corridors, ils s'attendent pas à ce que 2024 soit si rose que ça non plus.
Non, hein?
On a passé une très mauvaise année 2023, mais 2024 s'annonce pas des plus roses non plus. Pourquoi? Parce que, premièrement, les vastes réformes en éducation et en santé donneront pas des résultats à court terme, et ils vont commencer la session parlementaire, et ils l'ont bien annoncé, sur une réforme, une vaste réforme de l'industrie de la construction. C'est certain que ça passera pas comme une lettre à la poste, ça, là.
Puis les transports après. Patrick Bellerose et Gabriel, donc vous étiez à Québec solidaire et au caucus du Parti libéral. Patrick, c'est l'immigration aussi qui a fait jaser, surtout d'après ce que je comprends.
C'est clairement le sujet de l'heure. On se souviendra que, dans le fond, c'est une analyse de la Banque nationale, là, il y a quelques semaines, qui avait lancé le bal. Donc, pour une fois, on avait une analyse qui disait bien, il y a clairement un effet entre immigration et crise du logement. C'est un lien qu'on tombe de faire depuis longtemps au Québec, mais au Canada, disons que c'était moins évident, là, ça a percolé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça force des partis à se repositionner sur le sujet. On se souvient que Laurent Trudeau, par exemple, avait finalement admis, c'est vrai, ça crée une pression incroyable sur le logement. Et là, Québec solidaire, de la même façon, a recadré le tir, disons.
Il y a eu la lettre de Guillaume. Je lisais son texte ce matin, Patrick, ils n'ont pas beaucoup évolué. Ils disent, j'ai même les tweets de Gabriel Nadeau-Dubois, il dit, c'est l'inaction des gouvernements et non l'augmentation fulgurante du nombre d'immigrants qui est responsable de la crise du logement.
Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'admission qu'on a dépassé la capacité d'accueil au Québec. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas dit dans le passé. C'est vrai que Québec solidaire dit depuis longtemps, le modèle de travailleurs temporaires ne fonctionne pas, n'est pas bon pour les travailleurs temporaires ni pour le Québec. Il faut intégrer ces gens-là. Il faut aussi les régionaliser. Ça a été dit depuis longtemps. Mais ce qui ont été très habiles dans leur façon de fonctionner, c'est la lettre de Guillaume Clich-Rivard dimanche sur Facebook, où il dit, je veux rétablir les faits, je veux qu'on repasse un débat sur des faits.
Et il a dire la vérité, il a même dit, je veux dire la vérité. Oui. C'était assez prétentieux, là.
Et M. Clich-Rivard est quand même un spécialiste de l'immigration, donc il posait les bases du débat et du même coup, justement, il disait aux autres partis, vous êtes dans le champ, évidemment. Mais ce qui est habile, c'est que dans cette lettre-là et dans ses interventions par la suite à la télé, il glissait le fait que, on a dépassé la capacité d'accueil, évidemment, c'est un fait.
Et pour il y avait des petits ajustements cachés.
C'était nouveau. Moi, j'appelle ça la petite pilule empoisonnée, là, tu sais, ou le petit médicament que tu mets dans la nourriture de ton chien, là, que tu fais passer, là.
Si
tu manges une boulette de viande, il y a un médicament dedans. C'était ça. Le message qui était nouveau, qu'on essayait de faire passer en douce, c'était ça. Une fois que ça s'est dit, Québec solidaire pose une autre question qui est quand même.
Oui.
Pardon?
Sans trop se rapprocher de la vision du Parti québécois. C'est un peu ça aussi.
Non, évidemment, c'est une façon d'attaquer aussi le Parti québécois qui mène dans les sondages. Mais une fois que ça s'est dit, le Parti Québec solidaire pose une question qui est quand même pertinente. C'est de dire de qui on pourrait se passer.
Ouais.
Donc, ces travailleurs étrangers-là, parce que, demandeurs d'asile, on a un devoir humanitaire quand même, il y a les réfugiés, les immigrants permanents. Les travailleurs temporaires, de qui on veut se passer? Est-ce qu'on veut se passer des Mexicains qui vont récolter les fruits et légumes dans les champs, des emplois qui intéressent plus vraiment les Québécois dans une période où il y a le plein emploi? Est-ce qu'on veut se passer des dames haïtiennes qui s'occupent de nos grands-parents ou de nos parents dans les RPA, dans les CHSLD? La question est pertinente. On peut reconnaître deux constats, de dire il y a une capacité d'accueil qui est dépassée pour le moment, mais il y a aussi des gens dont on a besoin. Et là, évidemment,
la situation démographique qui fait qu'on est obligé d'accueillir beaucoup.
Exactement, la pyramide qui fait que les gens vieillissent beaucoup plus rapidement que le remplacement. Donc, Québec solidaire dit, la solution pour moi, je termine là-dessus, c'est de lancer une grande corvée du logement.
Ah oui.
Donc, de créer plus de logements. Juste pour finir rapidement, dans les années 80, on a lancé une grande corvée de l'habitation. À l'époque, on se souvient, les taux d'intérêt étaient à 20%. Donc, on a dit, on va créer de l'habitation pour la classe moyenne,
oui,
avec des taux préférentiels. Québec solidaire, eux autres, ils veulent faire quelque chose de similaire, mais pour le logement abordable, évidemment, ils restent un petit peu dans leur talent habituel.
Ils piquent des idées au vieux PQ.
Oui, tout à fait.
Au vieux Parti québécois. Gabriel, on t'a pas encore entendu. On a l'impression que les libéraux dansaient difficilement, comment dire, pas sur le même pied, toujours sur la question de l'immigration aussi.
Les libéraux ont eux aussi, comme tu dis, dansé sur un pied, peut-être sur une cheville foulée.
Oui, c'est mon cas.
oui, c'est vrai. À propos d'immigration, ils ont, comme Québec solidaire, ils ont admis, un peu contrairement à leur discours habituel, que l'immigration met de la pression sur le logement, que l'immigration met de la pression sur les services publics. Mais en même temps, ils ont continué de dire qu'il faut garder le robinet ouvert, puis qu'il faut continuer à accueillir autant d'immigrants, même pendant qu'on fait une planification plus ordonnée de l'immigration qui, selon eux, n'a pas été faite par le gouvernement, puisqu'il nous a mené dans la situation actuelle qui est problématique. Donc, l'immigration a aussi occupé une partie importante de l'attention au caucus, puis fait dévier l'attention du message que les libéraux voulaient passer. Les libéraux voulaient parler des PME. Ils ont dit, cette année, nous, on veut être le parti de l'économie, on veut être le parti des PME. Et à chaque fois qu'ils prenaient la parole, c'est pratiquement les seuls deux mots qu'ils avaient dans la bouche, économie, PME, économie, PME.
Mais tout ce qui ressortait, c'était Denis Coderre et l'immigration.
C'était Denis Coderre et l'immigration. Donc, Denis Coderre est passé un peu malgré lui comme une éclipse sur le caucus des libéraux. Il a été invité par les questions des journalistes mardi. Ils ont demandé à tous les députés, bon, qu'est-ce que vous pensez du bilan de Denis Coderre à la mairie? Et puis là, les députés sont restés plutôt prudents. Ils n'avaient pas trop envie de commenter le bilan de Denis Coderre. On sentait des fois peut-être qu'ils trouvaient pas que c'était le meilleur.
Il y a le rire de Marois Risky qui a pas mal marqué les esprits à ce moment-là.
Et il y a le rire de Marois Risky qui a complètement fait dérailler la semaine. Le lendemain, Denis Coderre a réagi sur les ondes d'une radio communautaire à Montréal. Une réaction que certains pourraient avoir envie de qualifier de disproportionnée. Où il a répondu à Marois Risky en l'attaquant un peu, en invitant tout le monde au respect. Marois Risky ensuite a répondu de bon cœur, un peu en riant, là, sans trop comprendre ce qui se passait. Elle n'avait pas entendu l'extrait, mais elle a réagi du tac au tac.
Est-ce que tu as senti que Denis Coderre, il y avait des alliés dans ce caucus-là?
J'ai senti qu'il y avait peu d'alliés au caucus, puis même au parti, parce que jeudi, à la toute fin, les élus étaient en train de partir, mais on a attrapé de peine et de misère le président du parti, Raphaël Primo-Ferraro, dans les corridors. On lui posait des questions sur Denis Coderre. On lui demandait est-ce que Denis Coderre est membre du parti. Monsieur Primo-Ferraro était plutôt prudent, disait je sais pas. Puis derrière la caméra, il y a le directeur général du parti, Patrick Huot, qui a pas pu s'empêcher d'intervenir, qui a dit non, il est plus membre depuis 2010 de Denis Coderre. J'ai vérifié la semaine passée, il est pas membre du parti. Alors, ça a fini de... L'éclipse a été totale, finalement. Denis Coderre est passé sur les trois jours du caucus libéral comme un bulldozer, puis on n'a jamais parlé d'économie, on n'a jamais parlé de PME.
Marc-André va dire...
Je comprends qu'il n'y a pas d'appui...
Ouais.
J'allais simplement dire, moi, ça m'a étonné quand même que des membres de la direction du Parti libéral interviennent de cette façon-là, puisque c'est une forme, à l'évidence, d'ingérence dans la course à la chefferie qui est à peine larguée. Hein? Alors ça, c'est assez particulier.
Et aujourd'hui, Denis Coderre a annoncé qu'il allait chercher sa carte là, de façon spectaculaire. Hein? Un peu comme
chance,
je me souviens, je pense que c'est Pierre-Carl Péladeau qu'on avait suivi jusqu'au siège du Parti québécois où il était allé chercher sa carte de façon spectaculaire. Nicolas, tu voulais dire?
Mais sans Denis Coderre, est-ce qu'on aurait vraiment parlé du Parti libéral du Québec?
Ben, on aurait sûrement parlé davantage de leurs enjeux, des enjeux qu'ils souhaitaient mettre sur la table. C'est certain que ça a créé de l'ombre, en tout cas, à ce que le Parti libéral souhaitait mettre de l'avant. Ça, c'est l'évidence.
Mais en même temps, le Parti libéral n'a pas le vent dans les voiles, peine à faire parler de lui. Denis Coderre apparaît et tout d'un coup, on en parle sur toutes les tribunes. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais faut quand même admettre qu'il y a son effet.
Oui.
On peut plus parler de la course à la chefferie du PLQ depuis que M. Coderre s'y intéresse. Ça, c'est clair.
C'est ça. Donc, il va probablement y avoir une course parce que là, on se demandait s'il allait avoir des candidats. Et là, il y en a un, c'est clair. Et ça va forcer d'autres à se positionner. Geneviève?
Et ce qui était aussi révélateur, je trouve, du caucus du Parti libéral, c'est qu'on a entendu Marois Risky, qui c'est elle qui reçoit les appels de gens et d'hommes d'affaires intéressés possiblement par la chefferie du parti. C'est pas Marc Tanguay, le chef intérimaire, là. C'est la députée libérale Marois Risky qui en prend large, disons-le. Et c'est elle aussi qui a répondu à Denis Coderre. Donc, on peut pas dire en plus qu'elle a permis à Denis Coderre de faire une très bonne impression, en tout cas, cette semaine. Là. Ça tourne mal pour lui. Là. Je veux bien qu'il attire l'attention sur le Parti libéral, mais c'est pas une entrée en matière parfaite, il faut le dire.
C'est comme une chef. Et Marois Risky s'avère une chef officieuse du parti. Marc-André?
C'est à se demander.
Ouais, j'allais dire, quand on regarde le portrait d'ensemble, en fait, de ces caucus préparatoires à la session parlementaire qui commence donc mardi prochain, on voit que le Parti québécois, lui, essaie de se maintenir sur sa lancée, alors que les autres partis, eux, essaient tous de se relancer d'une certaine façon. Québec solidaire qui rappelle ses positions passées en disant « ça fait longtemps qu'on parle de logement, d'immigration, bon, la CAQ qui veut se recentrer sur ses priorités », et maintenant le Parti libéral qui devra un jour se trouver un nouveau chef qui se cherche une place dans l'espace public, et on voit que c'est pas facile.
Ben, c'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup, Marc-André. Puis merci à vous tous. On expérimente là une nouvelle plateforme. Alors, on a eu beaucoup de plaisir. J'imagine que la prochaine fois, ça va être encore mieux. J'ai hâte de retrouver ce club des correspondants. Je sais pas trop comment on va le nommer, mais disons que ça va être comme ça pour l'instant. Le club des correspondants de là-haut sur la colline. Merci encore.
On dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
Mais bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval en tenue sportive aujourd'hui, hein, pour un sujet assez sportif, c'est-à-dire la décision de la Cour fédérale.
C'est le problème de Cube Télé, hein, ça, oui. C'est maintenant... Mais oui, c'est un sujet très sportif en effet.
Donc c'est la décision de la Cour fédérale qui a invalidé l'état d'urgence fédéral dans le dossier du convoi de la liberté. Toi et moi, on en a parlé plusieurs fois l'an passé. Je pense qu'on partageait aussi un certain scepticisme quant à l'usage de cette espèce de bombe nucléaire là, juridique et policière. Et je veux t'entendre sur ce revirement-là, parce qu'il y avait quand même une commission d'enquête du juge Rouleau qui avait dit « ben non, le gouvernement était justifié d'utiliser cette bombe nucléaire », j'emploie encore l'expression. Je t'écoute.
C'est tout un revirement, en tout cas. Là. Ça fait 2 ans, les événements.
Oui.
1 an, le rapport Rouleau, là, quelques jours près. Et bon, moi,
oui, j'ai dit le convoi de la liberté, mais je tiens à préciser aux téléspectateurs que c'est les camions là à Ottawa.
Oui,
là.
Bien sûr.
C'est ça, je tiens à le préciser. Bon, je t'écoute.
Et franchement, c'est le contraste entre le contenu du rapport Rouleau que j'avais lu à l'époque, ben, le 100 pages de résumé, et le contenu des motifs là de ce jugement de 190 pages du juge Richard Mosley.
Oui.
C'est fascinant comment il résonne à partir des mêmes ingrédients. C'est sûr que il va y avoir des gens pour insister sur l'idée que la mission du juge Rouleau n'était pas la même que la mission du juge Mosley. C'est vrai, le juge Rouleau, lui, il est plus proche d'une commission d'enquête, il fait le bilan en vertu de la loi, puis à la limite, le juge Rouleau, lui, sa mission, c'était d'être plus sévère. Parce que sa mission, c'était de faire des recommandations. Même si le gouvernement était correct, il devait penser le mieux pour la prochaine fois. Donc, sa liberté sa marge de manœuvre pour aller très loin dans sa réflexion, à mon avis, elle était plus grande. Alors que le juge Mosley, lui, il incarne le pouvoir judiciaire qui doit faire preuve de retenue face à un pouvoir politique là, qui est sur des questions de sécurité, qui est en temps de crise. Puis c'est un peu l'inverse qui s'est passé. C'est le juge Rouleau qui fait preuve de retenue, puis c'est le juge Mosley qui dit...
C'est le monde à l'envers, comme disait Stéphane Bureau à la télé il y a quelques années. Mais dis-moi donc, là, l'état d'urgence, c'est une sorte de loi des mesures de guerre, et on se souvient que ça a été utilisé en 70. 14 ans plus tard, c'est révisé par Pierre-Elliott Trudeau. La loi est finalement adoptée et on met dans la loi, on rend le recours à cette bombe nucléaire-là plus difficile. On ajoute une espèce de révision judiciaire obligatoire, ce qui a été le juge Rouleau. Et là, par contre, pour ce qui est du juge Mosley, ce qui vient de tomber, là, ça vient d'où? C'est une poursuite devant la Cour fédérale, je crois.
Ça, c'est deux groupes du Canada anglais, des associations de protection des libertés civiles. Ils se sont aussi trouvés des individus concernés. Mais d'ailleurs, il y a des dossiers d'individus qui ont été rejetés par le juge. Je dis, c'est pas des vrais cas concrets. Puis il en a retenu deux, puis il a accepté les demandes des deux associations.
Okay.
Mais on rejoue un peu le même film que devant la commission Rouleau. Là. C'est éléments de preuve qui sont souvent les mêmes. C'est les questions de droit, les ingrédients juridiques à partir desquels le juge Rouleau réfléchit puis le juge Mosley réfléchit. Ce sont les mêmes ingrédients.
C'est ça.
Et les deux groupes de la société civile qui sont requérants dans le dossier devant nous cette semaine, ils étaient aussi là partie prenante du débat là devant la commission Rouleau. Fait que c'est vraiment fascinant comment on arrive à dans un cas le verre est à moitié vide et dans l'autre cas le verre est à moitié plein. Le jugement Mosley, j'ai pris le temps de le lire, alors je te résume ce qui est le plus intéressant.
Okay.
Le plus intéressant, c'est ce qui vient, c'est ça, la partie où il réfléchit sur le contenu de la loi sur les mesures d'urgence, là, la nouvelle loi sur les mesures de guerre. Évidemment, elle est plus exigeante, cette loi. On l'a voulu plus sévère à cause des abus de la crise d'octobre. Moi, j'irais même dire qu'elle est un peu trop sévère à l'endroit du gouvernement par moment. Et c'est ça que fait le juge Mosley. Il prend les critères de la loi au sérieux. Là où le juge Rouleau est toujours en train de dire, je laisse le bénéfice du doute au gouvernement. Je comprends que d'autres pourraient avoir une autre lecture de la situation, mais je laisse le bénéfice du doute au gouvernement. Alors que lui, il va arriver et va dire, non, écoutez, il y a un critère, ça prend une menace à la sécurité nationale. Il n'y en avait pas.
Voilà.
Il a raison. Il a raison, mais... En même temps, est-ce que c'est pas un critère trop sévère, ça? Parce qu'un jour, on pourrait imaginer un État paralysé, pour de vrai, pas parce que le gouvernement était passif, là, comme dans ce cas-là. Donc, des problèmes importants pour lesquels on n'a pas de solution avec nos moyens réguliers, mais qui sont pas pour autant des menaces à la sécurité nationale. Donc, c'est là où moi, je m'interroge sur la loi fédérale, si elle va pas un peu trop loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir des problèmes qui sont prolongés, pour lesquels on a besoin d'outils spéciaux, mais qui ne menacent pas la sécurité. Et là-dessus, en tout cas, le juge, lui, il applique le critère prévu par la loi. Le deuxième critère qu'il applique, celui-là, j'y crois à ce critère-là, il est prévu par la loi. Hein. Souvent, à ce micro, on parle des critères juridiques, parce que ce sont des critères que les juges inventent pour interpréter la charte. Mais là, on n'est pas là-dedans. C'est des critères noir sur blanc, inscrits dans la loi, puis le juge dit, écoutez, à la limite, il dit pas, là, mais si ces critères-là font pas votre affaire, vous avez qu'à changer la loi. Et donc, on n'est pas dans la même logique là que ces critères jurisprudentiels en matière de charte. Deuxième critère important, donc, est-ce qu'on avait épuisé les solutions de rechange? Est-ce qu'on avait épuisé les outils normaux, les pouvoirs normaux que la police détient, les pouvoirs normaux que les gouvernements détiennent? Puis là, c'est vrai que le gouvernement Trudeau aura sa faute dans le dossier, ça aura été d'être passif. Et on l'a vu, par exemple, à Québec, le maire Marchand avait été très proactif avec une stratégie, puis avec un peu de volontarisme, puis il avait évité que les campements s'installent. Oui. On avait vu en Ontario, la veille de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence, avec les moyens réguliers, on avait réussi à défaire le barrage du pont Ambassador qui bloquait la frontière canado-américaine.
Oui.
Donc là-dessus, là...
Mais je me souviens des mots que tu avais employés dans le temps. Il n'y a pas d'insuffisance de droit.
C'est ça.
Il y a une insuffisance peut-être policière, mais il n'y a pas une insuffisance de droit. Monsieur, j'avais trouvé ça très juste comme expression, parce que quand on utilise un outil comme celui de la loi des mesures d'urgence, ben c'est qu'on a besoin d'un coup juridique ou législatif majeur, là.
Et le juge Rouleau, lui, il achète complètement l'excuse ou le motif du gouvernement fédéral, c'est que la police d'Ottawa était dysfonctionnelle, ça marchait pas, et c'est pour cette raison-là qu'il fallait d'autres solutions.
Ah oui.
En même temps, lui, le juge Mosley, il dit non, s'il y avait un problème à la direction de la police d'Ottawa, c'est pas une impuissance, c'est pas qu'il y a pas les moyens, c'est qu'il y a un problème de leadership. Puis il y a peut-être d'autres solutions que l'état d'urgence pour ça. Mais après, à la fin, là, c'est du droit, mais tout le monde peut se faire sa petite idée. Je prends un exemple. On nous dit les compagnies de remorquage refusaient de contracter avec l'État fédéral parce qu'ils se disaient on va avoir des représailles. Mais ça, c'est un bon argument qui montre que dans l'état normal des choses, si les partenaires privés refusent de contracter puis qu'on n'a pas de remorqueuse, ah, ben là, ça donne un peu raison au gouvernement Trudeau. Mmh. En même temps, le juge Mosley, il dit non, c'est pas vrai. La police a quand même quelques remorqueuses. Il y en a quelques-unes à l'armée. On aurait pu essayer quelque chose. Puis quand on regarde comment ça s'est démantelé à la fin, la manif puis les campements à Ottawa, ben au fond, la police, elle a utilisé des moyens qui sont assez normaux, là. L'opération policière qui a duré plusieurs heures, voire plusieurs jours, elle s'est déroulée d'une manière qui n'impliquait pas en soi des pouvoirs spéciaux.
Non, c'est ça.
Un mot sur le fédéralisme. C'est, à mon avis, le parent pauvre de ce jugement, et c'est ce dont on parle pas assez sur les autres tribunes. La loi contient un critère en
lien
avec le
fédéralisme.
Mais à la
hausse sur la colline, on est attentif à la question du fédéralisme.
Exactement. Et donc, la loi contient un critère en lien avec le fédéralisme. Un, il faut consulter les provinces. Puis là, c'est la première fois qu'on le faisait. Et quand on dit il faut avoir épuisé les moyens normaux, là, ben c'est comme si on dit il faut que les provinces ne soient plus capables de gérer la situation. Mm-hmm. Et là, je trouve que la décision du juge Mosley est décevante. Il donne pas au fédéralisme le poids qu'il devrait avoir. Alors, il y avait qu'une seule province qui est intervenue dans le litige, c'était l'Alberta. Et là, il faudra se demander, le dossier s'en va en appel, est-ce que le gouvernement du Québec va aller défendre les intérêts du Québec devant la Cour d'appel, Cour fédérale d'appel?
Ah, ben,
moi,
oui.
Je crois qu'on devrait le faire, parce que là, on a un précédent qui dit tenir une réunion téléphonique avec les provinces dans laquelle un grand nombre de provinces s'opposent à l'état d'urgence, c'est suffisant pour s'acquitter du devoir prévu par la loi. Consulter, on voit que selon le juge Mosley, consulter, là, c'est obligation assez minimale. Et je pense que c'est important que le Québec ait expliqué que non, consulter les provinces, il faut que ça soit un peu plus que ça. Mm-hmm. Le beau côté du raisonnement du juge Mosley sur le plan du fédéralisme, c'est qu'il accrédite beaucoup la thèse que si l'état d'urgence n'est pas nécessaire dans toutes les provinces, alors il faut réduire son application territoriale. L'approche du gouvernement Trudeau qui consistait à dire état d'urgence de Halifax à Vancouver pour une crise qui se déroule à Ottawa, ça, le juge Mosley est très sévère envers ça. Donc ça invite à une application asymétrique, ce qui est très favorable. Mais là, le pas supplémentaire, c'est qu'il faut réussir à convaincre les tribunaux que justement, si ça concerne que Ottawa, alors OK, c'est pas grave, peut-être que le Québec et l'Alberta et d'autres provinces soient contre le recours à l'état d'urgence, mais peut-être qu'il faut que la province concernée soit d'accord. Dans le cas qui nous occupe, le gouvernement Ford était d'accord.
Oui.
Mais pour l'avenir, là, pour les prochains cas, on parle dans le très long terme, c'est peut-être important d'aller se battre devant les tribunaux pour aller chercher cet aspect-là. Là. Peut-être que ça prend pas l'unanimité des provinces pour faire un état d'urgence fédéral. En tout cas, c'est ce que laisse entendre le juge Mosley. Mais est-ce que ça prend au moins une opinion favorable ou une demande de la province concernée? Le juge Mosley évite la question. L'Alberta est au front devant le tribunal. Peut-être qu'il va falloir que d'autres provinces se joignent, éventuellement en cour d'appel, sinon en cour suprême.
Est-ce qu'on est au courant des opinions ou des arguments qui ont été présentés par l'Alberta?
Oui, ils sont parfois ramenés dans le débat, une logique évidemment de droit individuel un peu libertarienne, puis une logique de défense de l'autonomie provinciale, un peu comme un rappel que le gouvernement Kenney était contre l'intervention par ailleurs.
Ouais.
Bon, un aspect dont on parle très peu, mais qui est important, quand on lit la décision, là, c'est plus du tiers de la décision, presque la moitié, où on parle, on se pose la question, est-ce que tout ça est devenu théorique?
Ah oui.
Et des juges moins courageux, mais peut-être plus prudents, auraient botté en touche, auraient esquivé ce débat en disant, tout ça c'est devenu théorique, le campement est fini, puis l'affaire est derrière nous. Et les aussi les gens qui nous saisissent de ce recours là, ils ont pas subi un préjudice, sont pas directement affectés. Alors ça occupe aussi une grande partie du débat. Puis c'est pas impossible finalement qu'on aille jamais au bout du débat parce que peut-être qu'en cours d'appel, ils vont revenir sur cet argument, c'est devenu théorique et on oublie ça, on met le couvercle là-dessus.
Ah oui.
N'empêche que dans le raisonnement du juge Mosley, il y a une tendance à se réfugier derrière des considérations générales et abstraites puis à fermer les yeux sur les cas concrets qui sont devant lui.
Ah oui, OK.
Je m'explique. Je te donne un exemple très emblématique. Le truc le plus attentatoire aux droits et libertés dans tout ça, c'est probablement la saisie des comptes bancaires. En tout cas, ça joue là, dans la vie des gens.
Vraiment.
Ben, le problème qu'il a, c'est que il n'y a pas vraiment de cas devant lui de comptes bancaires saisis. En fait, les deux seuls qui ont réussi à trouver puis à lui soumettre, le juge Mosley dit, ces gens-là ont vu leur compte bancaire saisi, mais ont subi aucun préjudice de la chose. La chose a engendré aucun préjudice parce que le délai a été court, parce qu'ils ont eu des cartes de crédit. Donc, il est comme dans un paradoxe là où ça arrive à plusieurs endroits dans son jugement. D'ailleurs, à un moment donné, il dit, ben là, je vais rendre un jugement déclaratoire. Je vais te dire que ce que le gouvernement Trudeau a fait, c'était pas bien. Mais il n'y a pas lieu d'indemniser les gens. Il n'y a pas lieu parce que c'est comme s'il dit, il n'y a pas un gros préjudice devant nous.
Il n'y a pas de conséquences à ma
décision. Il est sur le terrain des principes.
C'est
et ça, peut-être que d'autres juges auraient été amenés à dire, ben écoutez, s'il n'y a pas de conséquences concrètes et significatives dans la vie des gens, peut-être que dans ce cas-là, il faut esquiver ce débat-là. À la fin, il y a aussi une question centrale, j'appellerais ça le syndrome du gérant d'estrade. Est-ce que c'est pas un peu facile pour un juge avec 2 années de recul d'arriver puis dire, ben moi maintenant, là, 2 ans après, je le sais qu'on n'aurait pas dû faire ça. Et là, il y a comme un paradoxe, il y a un rapport entre le droit et le temps, et la politique évidemment. Pendant la COVID, on a vu des juges très, 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 très prudent dans le feu de l'action, valider tous les décrets sauf un, puis ça à l'échelle pan-canadienne. Dans ce dossier-là, toutes les décisions provisoires et interlocutoires des demandes d'ordonnance en cours de route, en attendant le jugement du juge Mosley, tout ça, ça a été rejeté. C'est la prudence qui a triomphé. Mmh. Et là, le juge Rouleau, la prudence aussi, le bénéfice du doute. Et là, après 2 ans, ben c'est sûr qu'avec le recul, ça devient facile de dire au gouvernement vous auriez dû essayer ci, vous auriez dû essayer ça. Mais le gouvernement qui est dans le feu de l'action, lui, il ne le sait
c'est
pas.
C'est le corps arrière qui va marcher du lundi matin.
Exactement. Exactement.
Alors que la politique, c'est toujours un pari. Les prises de décision politiques, il y a toujours une grande part de pari.
Oui, et son analyse là de la justification de l'action gouvernementale est très, très courte. Il se met très vite dans la situation où le gouvernement aurait pu faire mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'aime mieux son analyse du non-respect de la loi que son analyse sous les chartes. Je trouve que son analyse sur les chartes joue beaucoup au gérant d'estrade. Et à la fin, il y a une conclusion très divertissante, Antoine. Il nous explique comment, dans une espèce de parenthèse un peu bizarre, comme s'il veut dire que, au fond, je suis pas si fou que ça. J'ai déjà été d'accord avec le gouvernement. Il nous explique que lui, comme citoyen, il trouvait ça correct que le gouvernement utilise l'état d'urgence.
Mais voyons
que durant l'audition, il était convaincu par les arguments du procureur général du Canada. Donc là, il est en train de juger ce qui est raisonnable, machin et tout, puis il nous explique à quel point il a toujours pensé que c'était raisonnable ce que le fédéral fait.
Mais qu'est-ce que ça vient faire
à la dernière minute
d'un tribunal, ces propos-là sur ce qu'il pense,
je sais pas trop.
On s'en fout, non?
Est-ce qu'il voulait expliquer au fond que c'est en analysant de façon très détaillée la preuve qu'il a changé d'idée? Est-ce qu'il voulait dire au fond, je suis pas fou, là, je suis pas en accord avec le convoi de la liberté? On a affaire à un juge très très respectable, une carrière remarquable. Une nomination libérale, 2003, gouvernement chrétien Martin. Peut-être une façon de dire, écoutez, là, je sais pas. Mais c'est une conclusion très, très, très divertissante. Si vous ne lisez que 2 paragraphes, allez lire le début de la conclusion.
C'est ce qu'on va aller faire,
et je pense qu'il faut attendre la suite avec les tribunaux
d'appel. Formidable. Merci beaucoup, Patrick Taillon. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique constitutionnelle. Merci.
Merci. Alors, à toi, Antoine.
Je rappelle que tu es notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.